Alors, je vous dis bonjour. Donc, je suis Chantal Kalataïud. Je suis psychanalyste. J'ai créé la revue Psychanalyse Magazine, qui à l'origine était le journal de la psychanalyse, et ce, grâce à une équipe qui a permis que ces journées du livre psy, première mondiale, puisque ça n'existait pas jusque-là, existent. Donc, je vais essayer effectivement de vous faire partager une expérience. Je disais que j'étais un petit peu gênée parce qu'il y a 15 jours, nous étions sur Paris et il y a des personnes, eh bien, qui nous suivent depuis, qui sont là encore. Alors, c'est très sympathique. Merci aussi. Je trouve que c'est un public de grande qualité qui a répondu présent à l'appel, ce grâce aussi à l'intervention d'éditeurs, d'écrivains qui sont là. Et j'ai envie de commencer par un petit moment d'émotion. Je disais ce matin que nous n'étions pas des conférenciers professionnels. Nous avons été amenés à remplir un planning pour essayer de satisfaire le plus possible un public, mais il faut savoir que lorsque nous avons décidé donc d'organiser ces journées, eh bien beaucoup d'auteurs contactés qui étaient intéressés étaient pris par ailleurs. Donc c'est vrai que de façon très agréable, des gens de mon entourage professionnel ont accepté, alors que ce n'est pas la vocation, ont accepté donc de venir parler aussi de leur expérience. Alors je reviens sur ce moment d'émotion. J'ai vu tout à l'heure donc une jeune femme avec des larmes et ça m'a beaucoup touchée parce que pour moi, non pas que j'ai l'intention de faire pleurer qui que ce soit, bien au contraire, mais ça a quand même été un encouragement à continuer. Car plusieurs m'ont signalé, comment pourrait-on dire, je ne sais pas comment on pourrait dire, au niveau d'une préoccupation d'un public quant à la lourdeur donc de cette organisation. Et je trouve aussi qu'il y a une solidarité dans le public, des gens qui sont venus me trouver ou qui ont trouvé aussi d'autres intervenants comme ça et qui nous ont dit combien ils étaient sensibles donc à toute cette énergie que nous essayons de réunir. Alors tout à l'heure, une question m'a été posée. On m'a demandé pourquoi les journées du livre psy. Un tout petit brin d'agressivité. Une jeune femme m'a dit, mais moi je pars du principe qu'il y a peut-être des disciplines là qui sont représentées et qui ne sont pas fatalement en adéquation avec la psychanalyse. Alors c'est peut-être aussi le souci de la revue, c'est-à-dire travailler dans le sens d'une complémentarité de compétences. Donc c'était tout à l'heure rappelé par Laurence Pesquet, elle en tant que médecin. À savoir que nous œuvrons dans un sens d'ouverture. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de micro, si vous m'entendez. Ah bon, d'accord. Nous travaillons donc dans un sens d'ouverture et je trouve qu'il serait bien prétentieux de vouloir distiller comme ça que chacun de nous pourrait détenir une vérité. Alors toujours dans le registre de l'émotion, c'est très personnel aussi, il y a la présence là maintenant, c'est sûrement pas un hasard bien sûr, de Michel Freud, bien sûr, que vous pourrez tout à fait rencontrer à plusieurs reprises donc sur ces deux journées, puisqu'elle intervient aussi et qu'elle présente ses ouvrages. Et j'ai un très profond respect pour Freud, vous vous en doutez, puisque il m'a sorti de bien des mésaventures par psychanalyste, bien sûr, interposé. Qu'est-ce qui me souffle interposé? Merci. Tout ça pour vous dire, donc effectivement, je suis très émue. Alors c'est vrai que c'est un joli clin d'œil et c'est une rencontre symbolique, certes, mais qui pour moi a de l'importance. Alors, je vais essayer de rentrer dans le sujet, donc en essayant encore une fois de ne pas mettre en place trop de redites. Donc, le maître de la psychanalyse, Freud, fin du 19e siècle, on parle en 1896 donc de psychoanalyse. Depuis, effectivement, vous le savez, on a raccourci un petit peu l'expression, il s'agit donc de psychanalyse. Qu'est-ce que la psychanalyse? Un travail donc sur l'inconscient. Et on va dire surtout que la psychanalyse traite du comment et non pas du pourquoi. pour ça que je suis souvent très en colère lorsque j'entends des horreurs véhiculées quant à la psychanalyse, puisque le pourquoi peut être quelque part accusateur, alors que le comment, jamais. Vous dites déjà à quelqu'un « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Bon, c'est très agressif, c'est très projectif, alors que si vous dites à la même personne « Comment as-tu fait pour me faire ça ?» Il y a déjà un bémol. Donc la psychanalyse, c'est cela. Je ne suis donc pas conférencière, je me répète, et c'est vrai que pour moi, le concept d'atelier-conférence est important dans le sens de partage. Alors comme nous avons la chance d'avoir un micro-baladeur, dès que vous avez envie d'intervenir, si vous avez besoin de poser des questions, de quelque ordre que ce soit, je préfère que l'on travaille comme ça. Je trouve que c'est plus dynamique et j'ai l'impression qu'on avance aussi davantage. Et puis là aussi, c'est une rencontre qui va encore une fois dans le sens donc de tout ce que nous mettons en place, donc psychanalyse et moi-même. Cette revue, encore une fois, a pour sens de désacraliser une discipline qui demeure quand même assez méconnue, même si nous bénéficions maintenant donc de certaines professions telles qu'effectivement la médecine, l'enseignement, etc., qui nous permettent d'œuvrer donc dans un sens extrêmement positif. Alors la psychanalyse remonte effectivement à une centaine d'années et Freud s'est rendu compte que l'être humain souvent avait des conduites qui étaient tout à fait antinomiques par rapport à ce qu'il envisageait. Ainsi, on peut très avoir envie de passer son permis de conduire et puis ne jamais, jamais obtenir ce permis de conduire. Ce qui veut donc dire qu'il y a une vie qui est tout à fait indépendante donc d'une volonté consciente. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc effectivement une énergie, là on entre dans le domaine de l'abstraction, qui est une énergie qui est à la fois très positive puisqu'elle nous permet d'avancer, mais du fait d'une lutte liée à une subdivision de l'appareil psychique qui va aussi nous jouer des tours, ce qu'on pourrait quelque part assimiler à l'échec. Ainsi, lorsque l'enfant vient au monde, il découvre, malgré le traumatisme de la naissance, état pendant lequel il s'est vécu tout puissant, seul maître au monde, eh bien, il découvre malgré tout la pulsion de succion qui lui permet de rétablir un schéma de bien-être, un état de contenant-contenu, de plénitude rencontré donc pendant la période intra-utérine. Cette pulsion, qui est une pulsion spontanée, va être effectivement recherchée d'autant qu'elle s'étaye sur une fonction d'autoconservation qui est l'alimentation. Et cela, bien sûr, toute l'existence. Très vite, par contre, va s'opposer à ce que Freud a appelé l'instance « ça », un juge qu'il a nommé « sur moi ». C'est-à-dire que le « ça » étant complètement débridé donc dans ses intentions de plaisir, eh bien, va systématiquement trouver son maître, à tort ou à raison, mais donc un arbitre. C'est aussi, d'ailleurs, la mise en place de la culpabilité, pour d'autres raisons, a priori, d'ailleurs, que nous aborderons tout à l'heure. Ainsi, se crée le complexe, c'est-à-dire que cette espèce de lutte permanente entre le « ça » et le « surmoi » génère donc ce qu'on appelle un complexe, donc vulgairement, et qui entraîne, entre autres, des somatisations. Alors, il faut savoir qu'en analyse, le terme somatisation est un terme qui est quand même très généraliste, puisqu'il peut englober donc toutes les mises en danger, quelles qu'elles soient, de quel type que ce soit. Avant peut-être que vous posiez des questions, si vous en avez envie, et très rapidement, il faut savoir que il y a ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la mise en place des fantasmes. Ainsi, je vous disais tout à l'heure que pendant la période intra-utérine, l'inconscient vit un état de toute puissance. Cet état de toute puissance va être rompu, va être quelque part d'ailleurs perdu lorsque la naissance intervient. Il y a un processus schizoïde, c'est-à-dire un processus de séparation qui est quand même assez brutal pour l'inconscient. Et l'enfant, quelque part, pour survivre à un état qu'on pourrait approprier à de la décompensation, eh bien, va élaborer, va intemporaliser d'ailleurs un monde tout à fait personnel. Il va donc, dans ces conditions, découvrir sa mère, non pas sa mère en tant que sujet, mais sa mère en tant qu'objet. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il distingue, autant que faire se peut, déjà le sein, cette sphère, on pourrait dire cette boule, et la mère, donc, est perçue, est abordée dans un rapport objectal et non pas subjectal. Pendant les 18 premiers mois de sa vie, il va essentiellement, inconsciemment, psychiquement, je ne dis pas physiquement, mais découvrir sa mère, autant que peut le faire son inconscient, c'est-à-dire au travers d'une immaturité pulsionnelle, bien sûr. Alors, il y a des choses qu'il perçoit qui sont tout à fait vraies. L'enfant n'est pas complètement à côté de la plaque au niveau de ses perceptions, mais il va y avoir des schémas qui vont être déformés, notamment par la défense, c'est-à-dire par surmoi interposé. Ensuite, il va découvrir son père, ce, en gros, de 18 à 30 mois. Donc, il constitue ainsi une personnalité avec des choses, donc encore une fois, relativement objectives, vraies, et puis des choses qui le sont moins. Il faut savoir aussi que dès l'instant où l'enfant est déçu, c'est-à-dire que si le parent objet ne répond pas à sa demande, eh bien, ce parent va être envisagé comme mauvais objet. Donc, c'est là essentiellement la mise en place de la culpabilité. L'enfant va avoir une préoccupation, celle de ne pas perdre donc cette notion de plaisir. Cette notion de plaisir, là, de façon très schématique, il peut l'assimiler à l'amour que sa mère, objet, lui porte, ou que son père, objet, lui porte. Donc c'est ce qu'on appelle l'identification, avec toutes les confusions donc qui peuvent s'étayer effectivement, encore une fois, par les schémas défensifs. Donc, un inconscient qui, à l'âge adulte, si il n'a pas mûri comme la logique voudrait qu'il le fasse, eh bien, va rencontrer des écueils, encore une fois, ce qu'on peut assimiler à l'échec. À ce stade, avez-vous des questions à poser ? Ce qui, moi, m'intéresse plus à titre personnel, je préfère qu'on travaille comme ça, encore une fois. Pas d'interrogation. Donc un enfant qui se trouve à peu près à 30 mois, inconsciemment, comme la mère, puis comme le père. Fantasmatiquement, bien sûr. Hein. Donc on appelle fantasme cette déformation d'une approche donc psychique du parent-objet. Non, ça n'appelle pas de question. Alors donc le titre aujourd'hui était « La psychanalyse pour sortir de l'échec ». Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais souvent navrée donc d'entendre véhiculer des choses, même sur des supports très médiatiques, des choses qui sont erronées quant à la psychanalyse. La psychanalyse ne s'adresse pas fatalement à tous. Mais c'est vrai qu'on pourrait partir du principe que tout le monde relève d'une analyse. Donc ça fait souvent bondir certaines personnes, et les personnes qui bondissent sont celles qui n'ont pas eu d'expérience du divan. À ce stade, voulez-vous qu'on explique donc ce qu'est une séance analytique ? Alors, je vais demander, voilà, peut-être une formulation de questions. Une question précise, vous les posez ? Une séance analytique. Oui, alors une séance analytique aujourd'hui, hein, parce que lorsqu'on lit le livre de Freud, La technique analytique, effectivement, ce n'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Une séance analytique peut se passer donc aussi bien en face à face que sur un divan. Et là aussi, moi, je trouve lamentable qu'on entende ou qu'on lise que la psychanalyse, la pure, la dure, se fasse allongée. C'est absolument faux, puisque la psychanalyse est une écoute de l'inconscient qui se fait donc grâce au langage. C'est-à-dire que Freud s'est rendu compte que toute la partie refoulée, c'est-à-dire toute cette partie inconsciente, eh bien, pouvait être écoutée dès l'instant où on se connectait en empathie, certes, c'est-à-dire en neutralité, sur les phonèmes, c'est-à-dire sur les sons. Donc, une séance analytique est une écoute du langage, et on va partir du principe que lorsque le patient vient en analyse, eh bien, il transfère sur l'analyste, ceci de par la méthode analytique, de par la règle analytique, eh bien, il transfère ce que l'on appelle les parents fantasmatiques, c'est-à-dire ces parents objets dont je parlais tout à l'heure. Ainsi, le psychanalyste, s'il fait son travail correctement, mais là ça devient un pléonasme, eh bien, devient parent transférentiel. Alors, il est bien évident que l'analyste ne va pas garder à l'intérieur de lui les projections, donc, qui sont expulsées par l'inconscient de l'analysant. Donc, l'analyste va utiliser comme médiateur le langage, et en particulier toutes les ambivalences langagières, c'est-à-dire que nous travaillons sur le sens figuré pour contre-transférer donc le discours du patient. Ainsi, si un patient utilise par exemple, le mot « je », J-E-U, eh bien, effectivement, on peut entendre « je », J-E. Eh bien, le contre-transfert qui se fera à un moment spécifique, bien sûr, de la séance, portera sur « je », J-E. Ainsi, le contre-transfert va toucher ce qu'on appelle le « désir ». Pourquoi ? Parce que s'est élaborée une personnalité faux self pendant les 30 premiers mois de la vie, c'est-à-dire que l'inconscient ne parle pas comme « je », il parle comme « maman, papa ». Le contre-transfert va permettre petit à petit la restitution du vrai self, c'est-à-dire que l'inconscient va livrer non plus de la jouissance, comme disait Lacan, mais du désir. Ainsi, le sujet pourra se réaliser. Alors, vous savez qu'en analyse, se réaliser, ce n'est pas fatalement préparer HEC. Se réaliser, c'est être à sa place. Comme disait Lacan, lorsqu'un patient nous dit qu'il est heureux, ça suffit. Donc, vous voyez que l'analyse n'est jamais mise en termes de résultats, et au contraire, on quitte les schémas liés à l'angoisse de castration qui ont été mis en place donc par l'enfant qui, encore une fois, a eu peur de perdre l'amour de ses parents, c'est-à-dire une espèce de plaisir à s'étayer sur eux. À ce stade, avez-vous des questions à poser ?
Est-ce que vous pourriez réexpliquer le fantasme ? Parce que j'ai un petit peu du mal à le saisir par rapport à ce que vous dites maintenant.
Oui, moi je trouve que ça c'est des questions qui me rendent service parce que j'ai l'impression de partir un peu dans toutes les directions et effectivement. Vous n'avez pas entendu. Donc une jeune femme demande que je reprécise un petit peu ce qu'est le fantasme. Donc si on reprend les grandes lignes de ce que j'ai dit, pendant la période intra-utérine, l'enfant se vit un. Il se vit le maître de l'univers, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas conscience de l'extérieur, de l'extériorité. Donc, il se vit aussi bien la paroi utérine que le cordon ombilical, que lui, mais sans aucune conscience. On dit donc que l'inconscient est prépsychosé à ce moment-là. Il vient au monde, cette rupture, donc appelée angoisse de dissociation en analyse, va amener une espèce de détresse du moi chez l'individu. Et l'enfant, pour survivre quelque part, eh bien, va s'accrocher donc à une pulsion d'autoconservation notamment la première pulsion d'autoconservation, la succion, l'alimentation. Mais il va très bien se rendre compte, quelque part, il va avoir des perceptions très nettes d'une maman contente ou pas contente. Donc, parce qu'il a aussi déjà un surmoi qui est mis en place, eh bien, il va rentrer dans des notions de jugement, certes floues, abstraites, mais qu'ils vont faire qu'il va chercher à se défendre de cet extérieur, donc dont il pense que il peut être agressé donc par quelque chose qui n'est pas lui, donc la mère objet, voire plus tard le père objet. Et pour survivre à tout cela, mais effectivement, s'élabore un monde un peu intemporel, et on va dire qu'il anime ses objets d'amour comme ses objets de haine. D'ailleurs, il passe de l'un à l'autre. C'est la mise en place donc du clivage de l'objet. Donc le fantasme consiste pour l'inconscient à rétablir un pseudo-équilibre de vie dans le sens d'une possibilité donc de gérer le monde humain, donc cette extériorité de façon à peu près acceptable pour l'inconscient. Donc le fantasme, si vous voulez, c'est la déformation des parents sujets liés au processus de la défense. Donc, hein. Ça répond à votre question ou... Oui. Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, je voudrais reprendre sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, on entend que la psychanalyse ne se passe que sur le divan, pour éviter, j'imagine, tout ce qui se passe dans le non-verbal, dans la projection que pourrait avoir le thérapeute à être en face à face avec son patient. Qu'en est-il lorsque vous dites effectivement que vous considérez que la psychanalyse peut être effectivement du face à face, par rapport à ce qu'on disait effectivement Freud dans sa théorie psychanalytique?
Oui, alors, c'est-à-dire, en fait, ce que vous voulez savoir, c'est si une cure en face à face présente autant d'intérêt qu'une cure sur un divan? Oui, parce qu'encore une fois, bon, c'est vrai qu'on le doit peut-être cela davantage à Lacan, dans la mesure où l'analyse est une analyse du langage. Il faut savoir que Freud, au tout départ donc de sa pratique, hypnotisait. C'était un chercheur, il fallait qu'il écrive. Je ne sais pas si vous imaginez la situation, vous êtes chercheur et puis votre patient vous parle. D'abord, je ne vois pas très bien comment on peut contre-transférer non plus. Et vous écrivez, vous prenez des notes pendant ce temps-là. Bon, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un analyste sérieux, même s'il a quelques velléités d'être chercheur, qui puisse en fait pratiquer de la sorte. Freud, évidemment, pour lui, les choses étaient différentes. C'est un homme qui, effectivement, postulait. Mais on ne voit pas très bien, effectivement, ce que fait la position dans tout cela. Alors, dans la technique psychanalytique, effectivement, Freud nous laisse très libres, d'ailleurs. C'est un homme de grande liberté. Il disait qu'il nous donnait un rail et que partant de là, nous pouvions évoluer comme nous le sentions. Alors, il disait qu'il ne supportait pas d'avoir le regard des gens sur lui toute la journée. Vous l'avez lu. Donc, c'est vrai que depuis les travaux de Lacan, et notamment au niveau de la psychose, au niveau de la paranoïa, il est bien évident qu'on ne peut plus transmettre ce genre de choses. Si un analyste n'est pas capacitaire à supporter le regard de son analysant sur lui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas réglées, notamment son Œdipe négatif. Y a-t-il d'autres questions ?
Oui, qu'y a-t-il comme différence fondamentale entre une psychothérapie, une psychothérapie analytique, une psychanalyse ? Comment choisir entre tout ça et puis ensuite entre les différentes écoles de psychanalyse ? Enfin, je trouve que c'est un peu...
Alors, oui, c'est vrai que bon, il demeure un flou actuellement. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que la psychanalyse est une jeune fille. Alors en ce qui me concerne, bon, je n'ai pas du tout connaissance de toutes les psychothérapies qui peuvent exister. Avoir certains patients qui viennent de cabinets donc psychothérapeutiques, eh bien il y a des gens qui travaillent très bien, De façon très simpliste, ce qu'on dit actuellement, c'est qu'un psychothérapeute donc, travaille sur le conscient, c'est-à-dire qu'il reste effectivement sur la jouissance, mais ce n'est pas du tout négatif dans la mesure où si on va voir un psychothérapeute, c'est qu'on n'a pas encore non plus la maturité pulsionnelle qui peut permettre une rencontre totale et réelle avec soi. Vous savez que la psychanalyse nous permet de rencontrer le principe de réalité. Donc, vous voyez qu'on va quitter progressivement le principe de plaisir pour se diriger vers le principe de réalité. Donc, on quitte les conduites faux self pour se diriger vers des conduites vrai self. Il faut savoir aussi qu'un individu est soumis à un entourage familial, à un entourage professionnel, et que parfois, une analyse comme ça, en première intention, peut être prématurée. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé par une analyse, je me suis rétractée. Je suis passée, curieusement, ça peut faire sourire, je suis passée par une psychothérapie, pensée positive. Mais écoutez, la pensée positive, ça m'a fait comprendre le clivage de l'objet, etc. J'ai pu retourner chez un psychanalyste et j'ai pu commencer des études analytiques. Le problème que l'on a actuellement, c'est qu'il y a des psychothérapeutes qui se disent psychanalystes. Il y a des psychiatres qui se disent psychanalystes. Ça, c'est embêtant parce que la psychanalyse est une méthode, elle s'apprend. Et elle s'apprend essentiellement dans des instituts privés. Vous savez qu'il y a toute une polémique là-dessus. Et c'est vrai qu'on est un peu en bisbille avec les gens qui prônent malgré tout la transmission donc de l'analyse sur les bancs de la fac. Pourquoi ? Parce que l'analyse gomme le rapport dominant-dominé. Vous allez en fac, et bien l'étude du transfert est modifiée dans la mesure où le maître est quand même le supposé savoir. Un didacticien, c'est-à-dire la personne qui transmet l'analyse, au contraire, baisse d'un ton, et ça a été dit ce matin là, par un intervenant, et en fait, prend plutôt la place de la supposée ignorance. Ça répond à peu près à ce que vous vouliez savoir. J'insiste peut-être un peu, il faut savoir qu'on aurait mauvaise grâce de critiquer les psychothérapeutes, car lorsqu'on a la chance d'avoir un patient qui est déjà passé par un cabinet de psychothérapeute, il y a un grand chemin qui a été fait, et nous jouons quand même sur du velours. Il faut le savoir, il faut le souligner. Y a-t-il d'autres questions ? Si vous ne me posez pas de questions, je ne vais plus rien vous raconter.
Je ne sais pas si ça rentre véritablement dans le cadre, mais je trouve que c'est parfois difficile d'avoir un dialogue avec son psychanalyste parce que on rentre un peu parfois comme on rentre dans la vie, on ne sait pas trop ce qu'on peut aller chercher, quelles sont les véritables règles du jeu, comment aller chercher. On n'est pas toujours aidé dans la manière, parce qu'on est là aussi pour vous dire, dites-nous ce que vous avez à dire et moi, psychanalyste, je ferai le tri. Donc du coup, quand on est patient, on ne sait pas trop, on est un peu comme dans la vie, comme les nourrissons arrivent. On tâtonne sans trop savoir par où avancer, comment avancer sur soi, comment avancer dans les séances. Enfin, tout ce genre de choses est quand même assez flou pour des novices, quoi, pour nous les patients. Enfin,
alors, il y a une expression du docteur Nasio que j'aime beaucoup. Dans un de ses livres, il dit « Peu importe ce que l'on dit en analyse, si on sait ce que l'on fait ». Alors, je pense qu'un psychanalyste, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est le patient qui va avoir l'impression que l'analyste ne l'écoute pas, que l'analyste ne l'aide pas. En fait, je vous ai parlé, j'ai introduit tout à l'heure le contre-transfert pour effectivement qu'il y ait plus de précision dans ce sens-là. À mon sens, plus un psychanalyste est brillant, moins le patient se rend compte qu'il est en séance analytique. Vous savez, moi, quand je vois des personnes qui me disent qu'elles ont souffert le martyr, qu'elles pleuraient toutes les séances chez un analyste, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Hein. C'est pas logique. Vous n'entendez pas ? Il faut que je parle plus fort. Vous voulez que je reprenne un petit peu la question ? Oui. Madame nous disait que très souvent, c'est un petit peu le flou, c'est-à-dire pour un patient qui va chez un analyste, le patient peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de la part de l'analyste, c'est-à-dire que l'analyste est indifférent. Alors, on peut reprendre plusieurs axes au travers de cette question, à savoir, donc je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle donc la neutralité bienveillante. Actuellement, on préfère un petit peu plus l'expression empathie, qui est ni de la sympathie, ni de l'antipathie pour son patient. Donc encore une fois, c'est cet apprentissage de l'écoute qui permet au psychanalyste de contre-transférer selon le désir, selon l'ambivalence aussi de l'inconscient du patient, au travers d'une méthode, au travers d'une règle, qui fait que les choses avancent. Alors, lorsque vous dites lorsque vous induisez que vous pouvez ne pas très bien vous sentir chez votre analyste, c'est logique. Pourquoi ? Parce que, je vous disais tout à l'heure, de façon un peu rapide et un peu sommaire, que l'enfant découvre d'abord son parent, que ce soit d'ailleurs la mère ou le père, comme bon objet. C'est-à-dire, bon objet en tant un petit peu que parent nourricier, mais nourricier en tant que parent qui permet un étayage. Ensuite, comme l'enfant ne va pas avoir, et fort heureusement, dans la totalité de ses demandes, une réponse positive du parent, le parent va devenir mauvais objet. Donc, ces parents fantasmatiques, ce schéma déformé des parents fantasmatiques, va être transféré, va être projeté sur l'analyste. Donc, très souvent, quand on commence une analyse, on se sent très bien sur les premières séances, et d'ailleurs, je dis toujours de façon un peu ironique, c'est là où les gens font, de bouche à oreille, font notre clientèle, parce que nos patients parlent de façon très positive de nous sur les premières séances, et puis arrive ce fameux clivage de l'objet, c'est-à-dire un analyste honnête va permettre le clivage de l'objet, c'est-à-dire va petit à petit, de par la technique analytique, permettre donc le transfert négatif. Donc l'inconscient va refaire le chemin parcouru, en gros, entre 0 et 6 ans, et surtout sur les 30 premiers mois de la vie. Donc l'analyste, au départ, est perçu comme bon, puis perçu comme mauvais, hein, tout comme l'étaient donc les parents objets. Et cela, c'est tout à fait logique, puisque vous savez que l'analyse travaillant sur le comment ne va pas donner de solution, du moins en apparence d'ailleurs, à l'inconscient du patient. Il va falloir petit à petit que l'inconscient quitte l'étayage, qu'il ne prenne plus l'habitude de s'étayer donc sur une énergie qui n'est pas la sienne. Effectivement, ça fait mal. Et dès l'instant où l'inconscient aura une propension à revenir s'étayer sur l'analyste, l'analyste, quand tu auras aussi une maturité pulsionnelle suffisante, castrera. C'est d'ailleurs là, et on demande aux patients de le signaler, ou à l'élève analyste, il faut savoir que les élèves analystes, ça aussi c'est banalisé, mais ont une vie très difficile. Les transferts négatifs sont beaucoup plus lourds en didactique de groupe, voire en didactique individuelle, que sur une cure analytique. Mais c'est là où on a envie de quitter son psychanalyste. Je connais personne, je connais qui rit, vous voyez, me sent visée d'avoir envie de me quitter. Ah bon, ça va. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'une mauvaise foi, vous voyez, j'en échappe le micro. J'ai le souvenir d'une mauvaise foi totale vis-à-vis de moi-même, où en cours d'analyse, j'ai commencé à décréter que mon analyste était un imbécile, etc., etc. Je le détestais, je le vomissais. Donc effectivement, toute cette phase de transfert négatif doit aussi s'éliminer. C'est que l'analyse, donc encore une fois, arrête le jugement. Donc, de par la guidance de la cure, l'inconscient va se recentrer sur lui. Est-ce que ça répond à peu près à ce que vous vouliez savoir ? Vous voulez ? Oui, ça va ?
Oui, vous parlez donc des parents objets, de la référence que l'enfant fait aux parents objets. Qu'en est-il pour l'enfant, pour son développement futur, par rapport à ce sentiment de culpabilité et le complexe d'échec, lorsqu'il n'y a pas de référence à des parents, soit parce que les parents sont absents, soit parce qu'il n'y a aucun lien, aucune relation entre l'enfant et le parent ?
Alors, autant, effectivement, cela pose problème. Donc, on le disait tout à l'heure, de par cette vie fantasmatique qui peut nous jouer des tours, autant, je trouve que l'inconscient est une merveille, puisque, par exemple, un enfant qui n'a pas connu ses parents, eh bien, va avoir un inconscient qui va élire des parents objets de substitution. Ce qui peut amener aussi d'autres inconvénients, bien sûr. Hein. Ce qu'on retrouve, c'était signalé ce matin en pédopsie, ce qu'on retrouve effectivement dans un héritage transgénérationnel qui peut amener à une inversion des schémas. Mais l'inconscient, donc libidinalement parlant, a la possibilité donc de se projeter dans d'autres parents-objets, même s'ils n'ont rien à voir avec la filiation. D'ailleurs, on le voit au niveau du complexe d'Œdipe. Bien sûr, pour l'inconscient, vous savez qu'il y a la mise en place du tabou de l'inceste, c'est-à-dire que l'inceste est bien sûr l'interdit premier. Eh bien, on voit des inconscients donc, qui ont choisi des objets d'amour tout à fait possibles dans l'entourage familial ou dans un voisinage, etc. Donc tout ceci est restitué pendant la cure. L'inconscient a besoin de s'étayer. Donc, il se débrouille. Alors, après, effectivement, il y a des dérives possibles qui peuvent aller crescendo, c'est-à-dire de la névrose vers la prépsychose ou carrément la psychose, mais en fonction donc d'un terrain qui est particulièrement perméable et permissif, et surtout, encore une fois, d'un héritage familial, transgénérationnel, très lourd. Il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs qui se surajoutent malgré tout pour qu'il y ait des dérives très importantes. Oui, je vous vois un peu dubitatif, je vous comprends, parce que c'est vrai qu'aussi, on se rend compte combien nous sommes fragiles, même individuellement. Pourquoi aussi ? Parce que la pulsion ne demande qu'à régresser. Oui, ça vous permettez peut-être de rappeler que, en fait, l'inconscient n'a pas du tout envie d'aller de l'avant. Il a toujours envie de retrouver donc cet état privilégié intra-utérin. Oui, donc c'est pour ça aussi qu'on a cette propension à régresser et une analyse, heureusement d'ailleurs, ne résout pas non plus cette particularité. C'est vrai qu'on est beaucoup plus vigilant, notamment par les actes manqués que l'on remarque, c'est-à-dire par le biais d'une auto-analyse. On peut voir effectivement, ne serait-ce que par les somatisations, si on est dans le bon sens ou pas, mais on se rend compte combien nous sommes fragiles et là aussi, pour moi, c'est une vigilance à ne pas juger. On peut tout à fait dévisser très vite et beaucoup plus rapidement que ce qu'on le croit. Il ne faut pas non plus prendre justement la psychanalyse comme la panacée, ce serait une erreur. Au contraire, elle humanise.
Bonjour. Pour reprendre un peu ce que vous disiez sur les dérives, hein, car j'imagine que aujourd'hui, d'autres configurations psychiques se présentent. Hein. Il n'y a plus les névroses qui sont au premier plan. Les familles sont un peu dessoudées, donc il se passe toutes sortes de choses au niveau des psychés. Je me demandais, j'ai une grande question. Apparemment, le transfert suppose une relation objectale. Hein. Mais dans le cas où vous rencontrez des patients qui ont des transferts plutôt narcissiques ou psychotiques, est-ce que la psychanalyse, du fait que ce transfert ne permet pas une véritable rencontre, hein, est-ce que la psychanalyse a une solution ou des résultats avec ce genre de personnes ?
Alors oui, ça c'est une question fondamentale. Pour Lacan, oui. Jacques Lacan disait que la psychanalyse devait se préoccuper des psychotiques. Alors, quelle est la différence entre un névrosé et un psychotique ? Un névrosé, lorsque quelque chose... On va dire un individu, vous voyez, je fais un lapsus qui est un petit peu logique. C'est-à-dire que tout individu, donc, a subi, tout petit, des traumatismes. Encore une fois, des traumatismes parce qu'il n'était pas à même de gérer une situation lourde, donc une situation qui est devenue anxiogène. Je vous ai fait un schéma, donc si vous voulez, on peut le regarder aussi rapidement. C'est un schéma qui n'a absolument aucune valeur hein, sur un plan analytique, mais qui peut permettre de comprendre certaines choses. Vous voyez qu'il y a une espèce de couloir appelé préconscient, donc entre l'inconscient et le conscient. Eh bien, quand quelque chose fait mal à l'enfant, prendre un exemple, si par exemple un de ses parents lui fait honte quand il est tout petit, ce qui peut arriver, même tout bébé, le préconscient va être une véritable fermeture, sous l'ordre d'ailleurs du surmoi. Donc, au niveau de l'inconscient, va rester emmagasinée une énergie dite inavouable. C'est ce qu'on appelle le refoulement. Mais il est bien évident que l'analyse, même s'il s'agit de processus d'abstraction, peut, de par la cure par la parole, donc ce que je vous disais tout à l'heure, de par cette écoute, faire rejaillir l'inavouable, qui n'a d'inavouable, encore une fois, que ce que la perception immature avait décidé. Mais bien évident aussi que l'inconscient comprend de par l'analyse, admet, parce que c'est une véritable personne, l'inconscient admet que l'histoire de ses parents n'est de toute façon pas directement la sienne, du moins qu'il n'est pas impliqué par cela. Donc on a matière à travailler. Au niveau de la psychose, il y a une problématique qui est beaucoup plus lourde, c'est ce que Lacan a appelé la forclusion, c'est-à-dire que le refoulement n'existe pas, il y a un trou. Mais un trou sans limite. Pourquoi ? Parce que le surmoi, c'est-à-dire le juge, le censeur, a été forclos, c'est-à-dire qu'il a été carrément dénié. Alors, c'est vrai que de travailler sur des trous sans limite, c'est pas évident. En ce qui me concerne, je refuse de le faire parce que je trouve qu'on peut être très vite malhonnête. C'est-à-dire qu'on peut développer toute une clientèle. Vous prenez par exemple des parents qui ont un enfant autiste, c'est insupportable pour les parents, bien sûr. Donc ces parents-là nous adressent une supplique. Ils pensent qu'on peut effectivement arriver à faire quelque chose de sérieux. Ce n'est possible, à mon avis, qu'en institution, c'est-à-dire encore à titre expérimental. Ou alors il faut être particulièrement brillant et doué. Et je considère que ce n'est pas mon cas. Ce qui m'intéresse dans l'analyse, et ça répondra peut-être à votre question, c'est effectivement cet échange, cette espèce d'ailleurs de corps à corps que l'on a d'inconscient à inconscient, c'est-à-dire cette pulsion de mort que peut nous envoyer donc l'inconscient de l'analysant, effectivement, qui va se heurter quelque part aussi au miroir que représente l'analyste, a fortiori l'analyse. Mais c'est vrai que je ne prends pas les psychotiques en cure. Par contre, les prépsychotiques, oui, des gens qu'on appelle borderline, oui. Vous prenez par exemple des gens qui ont des bouffées délirantes ou les maniaco-dépressifs, même si vous savez que souvent la psychiatrie donc les range dans la catégorie des psychoses. Oui, parce que ce sont des gens qui peuvent avoir un discours tout à fait cohérent sur une grande partie des séances ou de la cure. Donc là, on peut travailler. Mais ce sont mes limites aussi. Hein. Je suis psychanalyste de formation linguistique et pas de formation médicale. Alors, ça peut expliquer aussi ma non-réponse. Ça vous convient comme réponse ou pas ? Oui ? Avez-vous des questions à poser ? Non, il y a... oui. Joël va vous apporter un micro.
Merci. J'utilise l'indéfini, mais bon, cela me concerne.
Je ne vous entends pas très bien, excusez-moi.
Lorsque la personne ne passe pas par, après plus d'un an d'analyse, ne passe pas par un transfert, n'arrive pas à passer au transfert avec l'analyste,
faut qu'il change d'analyste.
Voilà, oui.
On est d'accord.
Et qu'il y a une velléité à vouloir, de la part de la personne, en l'occurrence c'est moi-même, à vouloir passer à. Pour des tas de raisons, des complexes divers, à passer à notre analyste, quoi. Donc, voilà.
Oui, dans ce que vous dites, bon, je vous agresse un peu, mais ce n'est pas méchant. C'est-à-dire que c'est impossible. Dès l'instant où vous êtes un analyste, qu'est-ce qui fait que vous devenez... Si vous êtes analysant, vous allez chez un analyste, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir transfert? C'est tout simplement la règle. Et la règle, elle n'est pas drôle du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en situation de chantage comme l'inconscient peut le faire avec les parents, parce que a priori avec les parents, la relation se veut gratuite. Vous savez qu'en analyse, il y a une règle qui est très stricte. Toute séance se règle en début de séance avec l'appoint, les billets posés côté identitaire. Bon, ça c'est déjà une première chose et c'est pas drôle parce que, et de moins en moins, la société est de plus en plus orale et c'est vrai qu'on a du mal en général à avoir des espèces sur soi, on a plutôt tendance à avoir un chéquier. Bon, déjà il faut y penser. Ensuite, dans la règle, qu'y a-t-il? Si vous êtes en retard, eh bien vous avez le temps qui a priori vous est dévalqué. Si vous ne venez pas à votre rendez-vous, le rendez-vous est dû. Alors, non pas pour les imbécilités aussi qui sont véhiculées régulièrement, à savoir Freud était juif et c'est pour faire du black. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend aussi, c'est que les chèques n'existaient pas. Ben si, parce que m'a été d'ailleurs dit il y a quelques jours que le système de chéquier existe depuis, moi je pensais que c'était plus récent que ça, 16e ou 17e siècle. Donc c'est très très vieux. Non, pas du tout. Déjà, vous avez une règle et l'argent correspond donc à une évolution libidinale que l'on accepte ou que l'on accepte pas. C'est-à-dire que vous avez trois zones érogènes, la zone orale, donc celle dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, donc avec l'absorption, la zone anale, qui met en place un couple d'opposés rétention-expulsion, et la zone génitale, qui est une zone interdite, notamment de par l'inceste et de par les limites posées par le père. Donc, effectivement, au départ, on est prêt à tout donner à son analyste. On paie volontiers. Les transferts négatifs arrivent, il y a le processus de rétention qui se met en place. C'est le transfert. Mais qui est mis en place dès le début de l'analyse, si véritablement le professionnel fait respecter cette règle-là. Alors maintenant, les gens... oui, c'est que Freud pouvait appeler aussi cette catégorie les charlatans ou les coquins, qui jouent un petit peu sur tous les tableaux, c'est vrai, ne sont pas très honnêtes ni vis-à-vis de leurs patients, ni vis-à-vis d'une profession, encore moins vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc là, le problème n'est pas en fait. Hein, mais c'est cette règle, le respect de cette règle, qui comme ça, en apparence, quand on est très extérieur, semble facile. On se dit, oh, bon, c'est pas très difficile d'avoir toujours l'appoint à une séance. D'abord, c'est très difficile, puisque si le patient, par exemple, n'a pas l'appoint, ou s'il a oublié son argent, ou si le distributeur de billets, effectivement, a répondu non... Eh bien, l'analysant va se faire castrer par l'analyste. C'est-à-dire que toute la séance va être basée sur une attitude professionnelle qui va tourner autour de la résistance. Il va falloir que l'inconscient débloque cette résistance pendant la séance. On ne laisse pas non plus partir un patient à n'importe quel moment. Il faut que le patient soit là en transfert positif. C'est-à-dire qu'il faut, dans notre jargon, qu'on les fait abréagir. Donc, il est bien évident que la psychanalyse est un métier. Comme tout métier, il s'apprend. Mais vous n'avez pas un seul psychanalyste qui vous dira avoir eu un patient qui ne passe pas en transfert au bout d'un an. C'est quelque chose de grotesque. C'est absolument impossible. Ou alors, encore une fois, il y a une faute professionnelle. Et, excusez-moi, maintenant, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'il peut y avoir, c'est l'analysant qui a l'impression qu'il ne transfère pas. Mais ça veut dire, à l'inverse, qu'il est en séance et qu'il fait une cure avec un psychanalyste qui est brillant. Voilà.
Laps de temps très court, bon, je ne sais pas lequel, mais et puis bon, une régression après vers une neutralité, enfin vers.
Ah oui, on n'appelle pas ça une régression. Non, là, c'est au contraire l'inconscient qui quitte l'étayage. Hein, c'est pas une régression. Donc on me demande d'arrêter. Je vous remercie. Donc.
C'est dommage. Hein, c'est vraiment dommage.
Merci beaucoup. Merci.